Salut tout le monde, comment ça va là-dedans?
Good evening, ladies and gentlemen.
Oh, shit. Ici Paris, Radio Diffusion Française.
Que le spectacle commence.
1, 2, 3, 4.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le MAC de l'été, le magazine culturel de France Inter. Alors ce soir, je suis très heureuse d'accueillir Simon Liberati, l'un des meilleurs écrivains de sa génération, qui ne publie pas un, mais deux livres le 23 août. Les Rameaux Noirs, un texte envoûtant qui mêle mémoire et essai sur l'inspiration. Et Les Violettes de l'avenue Foch, un recueil de ses articles où l'on croise Carla Bruni, Jean-Jacques Schull, Marisa Berenson et bien sûr son épouse, la très belle Eva Ionesco. Et à la fin, c'est Pascal Thouault de la librairie 1000 pages à Vincennes qui nous donnera son coup de cœur de l'été.
Nelly Caprielian, le MAC de l'été sur France Inter.
Bonsoir Simon Liberati.
Bonsoir Nelly Caprielian.
Vous allez bien?
Ça va.
Moi j'ai l'impression que vous êtes très en forme en ce moment parce qu'on est très heureux de voir que vous publiez un livre par an quasiment depuis quelques années, depuis 3 ans je crois. Alors, puisqu'on va parler d'inspiration, c'est la grande forme en ce moment côté inspiration, Simon?
Mais écoutez, je ne sais pas, ça doit être une question d'âge parce que j'ai commencé à écrire très tard. Et je ne sais pas si c'est la grande forme, mais il y a une sorte de pression qui s'est faite petit à petit. Et j'écris donc beaucoup. Et donc, comme j'écris beaucoup, il se trouve que y a plus de livres qui paraissent. C'est pas non plus. Mais c'est vrai que ça commence à être tous les ans. Mais enfin, je pense que le prochain est assez long à écrire. Donc, il va peut-être me demander un peu plus de temps.
Bon, on vous retrouve tout à l'heure justement pour parler d'inspiration. C'était Soul Wax, My Excuse, dans le MAC de l'été sur France Inter, toujours en compagnie de Simon Liberati. Alors Simon Liberati, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Les Rameaux Noirs?
Écoutez, c'est venu d'un coup. C'était très inattendu. C'était pas un livre du tout que j'avais prévu de faire. J'ai un calendrier malheureusement d'ouvrages à accomplir parce que j'ai des contrats, etc. Et il se trouve que ce livre est arrivé. J'étais en train de parler d'un précédent livre et mon père a eu un accident pas très grave mais qui m'a choqué. Et comme c'est quelqu'un qui a eu un rôle important dans ma vie et par rapport à la littérature particulièrement, et qui, je dirais même, peut-être pas volontairement, mais en tout cas m'a profondément inscrit dans cette histoire de littérature, j'étais en train de réfléchir sur la poésie, je réfléchissais en fait sur des vieilles théories autour de l'inspiration, et je lisais des vieux textes, comme ça m'arrive souvent quand je sais pas trop quoi faire. C'était la fin de l'été et je lisais des vieux textes de savants anglais ou allemands sur la pensée grecque, et puis voilà, tout à coup, ça, c'est entre l'accident qui lui est arrivé et la lecture, c'est comme ça que ça marche, hein. La chose a commencé à, et j'ai commencé à écrire, je me souviens très bien, c'était le 15 octobre à peu près, 16 octobre, c'est l'anniversaire de ma mère, donc on va pas faire la famille.
De quelle année? Cette année,
ah, oui. Donc j'ai commencé à écrire ça, et je l'ai écrit sous une force, enfin, avec une force de l'année dernière, je veux dire, de 2016, pardon. Et donc j'ai écrit ça, voilà,
Alors, faut quand même,
inspiration, on va dire, pour le
Simon Liberati, faut quand même rappeler ce que j'ai appris dans votre livre Les Rameaux Noirs, c'est que votre père est poète, prof du mouvement surréaliste, non, à un moment donné.
Membre des
surréalistes.
C'est un jeune homme qui n'était pas du tout d'un milieu de littérature, hein, qui était un fils de militaire, et qui a très jeune, à l'âge où on arrive à se faire ce genre de choses, a commencé à écrire, et il a eu. Il a eu la chance que d'envoyer ses textes à André Breton, et Breton, comme il savait le faire, parce qu'il avait cette attention à la beauté littéraire très intense et très forte, il l'a décelé tout de suite, et il l'a fait venir, et il est devenu membre du groupe. Il était aux réunions dans les cafés au début des années 50.
L'explication de l'attitude du fou, qui lui, à Grenade, est taxé d'idolâtrie. Les paroles adressées à Dieu s'adressent, dans ces conditions, naturellement, à la femme aimée. Et comme dit le fou, il n'y a pas de différence de la prière et du chant. La mystique, dans ces conditions, vous ne la retrouvez pas dans mon poème. Mais cependant, il y a des liens de parenté en ce sens que la mystique a changé de sens, elle est devenue la poésie, tournée de Dieu à la femme, et pour moi une explication de ce que c'est que la poésie.
Alors Simon Liberati, on vient d'entendre Louis Aragon, qui parlait de mystique et de poésie sur l'ORTF en 63. Alors, pas seulement Breton, il y avait aussi Aragon qui était dans le sillage de votre père.
Dans le sillage, non, mon père s'est rapproché d'Aragon, et c'est drôle que vous parliez de cette date, 63, parce que ça devait être à peu près la fin de... Je sais qu'ils ont fait une lecture au théâtre Récamier en 62, donc c'est vraiment cette période-là. Et mon père a quitté le groupe surréaliste de lui-même, hein, il a téléphoné à Breton pour lui dire qu'il ne voudrait plus venir aux réunions, parce qu'il avait été influencé par quelqu'un qui était l'ami d'Artaud, qui s'appelait Colette Thomas, qui l'avait convaincu de quitter le groupe et de se rapprocher du Parti communiste à ce moment-là, et il s'est rapproché d'Aragon, et donc il est devenu, il allait rue de Varennes chez Aragon pendant des années, enfin ça a duré un moment, et c'était à peu près la période où j'avais jamais entendu l'extrait que vous venez passer là, mais c'était à peu près à ce moment-là.
Qu'est-ce que vous en pensez de l'extrait qu'on
vient
de passer?
Il est beau, mais je n'avais pas reconnu Aragon, c'est vous qui m'avez dit Aragon, je ne savais pas qui c'était, j'ai entendu cette voix.
Vous cherchiez.
Très comme ça, quelque chose de précieux comme on parlait autrefois, un peu, hein, on n'entend plus des gens tellement parler comme ça.
Non, d'une voix un peu nasillarde.
Oui. Et mon père me disait qu'il lisait les poèmes d'une certaine manière, mais en fait, à vrai dire, je ne l'avais jamais entendu, je n'ai jamais été la curiosité d'aller voir sur les archives. Je sais que Breton était très aussi... Le plus à l'aise, c'était Dali, qui était le plus improvisateur, incroyable. Les autres étaient plus... Mais là, Aragon, c'était très... Oui, c'était assez émouvant.
Justement, alors Aragon, j'ai découvert aussi dans Les Rameaux Noirs qu'il a joué un grand rôle dans votre vie.
Oui, c'est grâce à Aragon que je suis venu au monde.
Oh, c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien. Oui. Alors, c'est une histoire tout à fait authentique. C'est-à-dire que, en fait, mes parents avaient eu un premier enfant qui s'appelait Alain, qui est mort malheureusement très très jeune, à l'âge d'un an et demi. Ça a été un choc, évidemment, comme on peut l'imaginer, assez violent. Et c'est Aragon qui a convaincu maman de faire un autre enfant, et il lui a même dit, elle m'a raconté ça l'autre jour, elle me l'avait jamais raconté directement, il lui a même dit, mais ma petite, il faut que tu fasses un autre enfant, et je veux bien être son parrain, mais en fait, il a été mon parrain par cette voix et par cette parole. Il m'a évidemment pas porté sur les fonts baptismaux, c'était pas trop son genre, mais enfin, voilà, c'est donc, je suis né du souffle d'Aragon, enfin, pas seulement de ça, hein, mais voilà, ça rentre aussi dans ma vie.
Et puis, un enfant qui était né avant vous et qui est décédé, est-ce que l'inspiration, Simon Liberati, on la puise aussi chez les fantômes? En fait, c'est quoi l'inspiration?
C'est une chose très étonnante que je pense pas être le seul à ressentir, c'est que quand vous mettez à écrire, d'abord c'est souvent sous l'impulsion, vous vous levez rapidement, vous êtes en train de faire quelque chose d'autre, vous lisez, ou Léoto il est en train de faire sa lessive, et puis tout à coup ça vient, comme ça, il y a quelque chose qui vient, et donc vous écrivez, et puis parfois il y a une espèce d'enthousiasme qui au sens propre du terme, hein, la présence du Dieu en vous, il y a quelque chose qui se met en vous, et vous, un entrain, dirait Léoto plutôt, et vous vous mettez à écrire. Et moi, c'est vraiment pour moi un phénomène extérieur. C'est pas quelque chose que j'ai jamais ressenti comme venant de moi. Je l'ai toujours ressenti comme venant de l'extérieur. Et c'est quelque chose que je cherche à éclaircir un petit peu dans mon livre « Les Rameaux Noirs ». Mais c'est en effet, c'est un phénomène, c'est un, comment dire, une question qui est très ancienne. Hein. C'est une question qui se pose déjà dans Platon. Enfin, il y a évidemment des textes extrêmement connus et d'ailleurs très beaux sur la question. Le Ion, il y a beaucoup de textes de Platon là-dessus, qui est d'ailleurs pas pour l'inspiration, qui considère que c'est une folie comme ce qui inspire les devins et le rapport que faisait Aragon tout à l'heure avec la mystique. Enfin, on connaît toute cette histoire-là. Et donc, voilà, c'est un phénomène, vous le ressentez, ça vous rend nerveux. Et si on vous interrompt, si, je sais pas, on vient vous dire un truc, vous pouvez être très très désagréable. Et c'est pas parce que vous êtes méchant, ou c'est pas parce que tout à coup vous êtes, voilà, il y a quelque chose en vous qui vous rend. Et je pense que ça rentre d'ailleurs même dans certains cas. J'en parle dans mon livre, on peut devenir presque fou avec ça. Et certaines rages, je pense à Céline par exemple, et certaines rages qui viennent parfois. Corrompre peut-être le propos de départ viennent aussi de ça. C'est un phénomène dangereux. Moi, je le ressens comme quelque chose d'assez, enfin, sans en faire un drame, mais comme quelque chose d'assez fort.
Avant de revenir au danger de l'inspiration, serais-je seul avec un fou sur le
oui,
plateau
ça,
non, pas du tout, pas du tout, Simon Liberati. Je vous propose d'écouter. Vous parlez de Léoto. Léoto.
Jeudi 23 janvier, dîner chez le docteur Le Savoureux. L'abbé Munier empêché de venir. Bronchite. Délicat de sortir le soir en cette saison à son âge, 75 ans. En avisant le docteur Le Savoureux, il a dit « Je ne ferai que tousser. Homme, je ne serai pas drôle. » Présent, un médecin ami de Le Savoureux dont je n'ai pas retenu le nom, Maxime Leroy et Julien Bada. Maxime Leroy, juge de peine à l'arrondissement de Paris. Je l'ai appris seulement ce soir. Grande ressemblance avec les Clémenceau, l'homme politique et l'avocat, si ce n'était pour les yeux, un strabisme très accusé, qui fait qu'il a l'air de regarder ailleurs quand précisément il vous regarde. Il a publié chez Riedler un livre sur Descartes. En ce moment, il étudie Taine. Il a dit ce soir qu'il lui trouve beaucoup de protestants. Bada tout blanc, cheveux et moustaches. Il a mon âge pourtant, ou pas beaucoup plus.
J'adore complètement son phrasé. C'était donc Paul Léoto lisant lui-même un passage de son journal en 1953 sur l'ORTF. Alors, Simon Liberati, ce livre qui oscille entre mémoire, récit, réflexion sur l'inspiration, c'est aussi une forme de cabinet de curiosité littéraire où se côtoient donc Paul Léoto, Charles Maurras, Jean Lorrain, Proust et bien d'autres. Est-ce que l'inspiration vient chez vous d'autres écrivains ?
Ah ben moi, ça fait bien longtemps que la lecture et la vie se sont totalement emmêlées. Hein, j'ai écrit un livre qui s'appelait Eva, où je parlais de ça, parce que j'avais ma femme Eva Ionesco, que j'ai rencontrée, dont j'avais parlé dans un premier livre, et qui finalement est venue dans la vie, invoquée par le premier livre.
Oui, donc le premier, c'était en 2004. C'était Anthologie des apparitions.
Ouais. Et c'est ce livre-là qu'il a. L'entremêlement de la réalité, je vais vous dire une bêtise, mais je m'endors en lisant souvent. c'est une question d'âge. J'ai l'impression de parler comme les messieurs qu'on a entendus, les autos. Et ça se mélange quand vous voyez la lecture. Il y a des gens. Puis je suis pas un grand curieux. Moi, je lis souvent j'ai beau avoir beaucoup de livres, j'ai beaucoup surtout le nez dans des livres qui sont souvent les mêmes. Et donc j'ai une espèce de compagnie comme ça, un groupe de gens que je fréquente en fait, qui sont des écrivains morts parfois depuis 2000 ans. Et ça se mélange. La vie est là. Pour moi, ils sont vivants comme peut-être plus même que parfois mes amis. Hein. Donc voilà, donc là, l'inspiration vient des deux, le mélange de la vie et de la littérature.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, c'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps.
L'année la plus chaude de tous les temps, c'était Raphaël. En bref, les news du Mac de l'été. She talks et tout le monde en parle. Brigitte Macron donne sa première interview au magazine Elle aujourd'hui. Et sans le savoir, elle y confie pour nous son coup de cœur de l'été, Flaubert, et oui, et plus précisément Madame Bovary. Sans oublier au rayon poésie, Les fleurs du mal de Baudelaire. Alors Carla Bruni, elle, c'était plutôt Nerval et Chateaubriand. Mesdames, les écrivains vivants en France, ils sont pas mal non plus, vous savez. La saga Star Wars continue. Alors, dans quel ordre, ne me demandez pas, je vous avoue que je suis un peu dépassée. Mais bref, le spin-off sur Obi-Wan Kenobi, et j'ai pris mon envol, le maître Jedi de Luke Skywalker est enfin confirmé. Et c'est Stephen Daldry, le réalisateur de The House, qui s'y collera. Quand il sortira, courez-y vite.
Vous ne venez pas, maître ? Oh non, je ne suis pas taille à affronter les politiques, et je dois informer le conseil. Par ailleurs, tu présentes beaucoup mieux que moi.
L'un de mes musées préférés à Paris, c'est sans conteste le musée Guimet, avec ses magnifiques collections d'art asiatique. En ce moment, jusqu'au 18 septembre, il faut y aller pour voir la somptueuse exposition 113 ors d'Asie. Avec nous pour en parler, Sophie Macariou, présidente du musée et commissaire de l'Expo. Allô Sophie Macariou ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir Sophie, merci d'être avec nous.
Je vous en prie.
Alors de quoi il s'agit exactement avec 113 ors d'Asie ?
Alors il y a un petit jeu de mots d'abord évidemment, 113 ors, ça fait 113 ors. Donc on a...
Ah bravo, ben, j'avais
oui,
pas
bien
du
sûr,
tout percuté.
C'est l'été, donc on essaye d'être
je l'aurais prononcé
léger.
Différemment. Oui.
Voilà, donc on est à la fois léger et sérieux et on a pris sur le mode de la plaisanterie quelque chose qui est important, c'est à la fois explorer des collections très extraordinaires et assez méconnues, aller voir ce qui fait dialoguer les collections entre elles et puis aborder un thème qui est très important, qui est la place de l'or en Asie. Alors pourquoi ? À la fois parce qu'il est assez peu présent, par exemple, dans la monnaie. Il n'y a pas de monnaie d'or, ce qui nous paraît, nous, assez étonnant quand on connaît l'histoire européenne. Et puis en même temps, parce que visuellement, il est là partout. Et en particulier, il est très présent sur la sculpture. Donc on s'est posé des questions autour de ça, tous ensemble. Et ça donne cette exposition florilège, parcours de chefs-d'œuvre à travers des pièces de nos collections qui sont réunies dans un très très bel écrin coloré qui sont les salles d'exposition du musée.
Je crois que vous avez été puisé dans les réserves du musée. Qu'est-ce que vous y avez puisé ?
Alors il faut savoir que le musée il expose quelques milliers d'œuvres pour plus de 60 000 œuvres conservées. Donc c'est dire qu'il y a beaucoup 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 de choses sous la surface en quelque sorte. Alors on est allé chercher des acquisitions récentes, des choses très exceptionnelles comme un très grand rouleau poétique japonais qui est calligraphié sur un fond totalement poudré d'or avec des feuilles légères, des petits papillons à la poudre de mica qui viennent se poser. Ça, c'est une acquisition de 2013. C'est un grand chef-d'œuvre du début du XVIIe siècle dont on est très fiers. On est allé chercher aussi des œuvres qu'on montre rarement parce que, comme les textiles avec des fils d'or, ce sont des choses qui sont sensibles à la lumière, donc fragiles, on les montre rarement. Et puis aussi des œuvres qu'on a fait restaurer comme une pièce très exceptionnelle qui est ce qu'on appelle une kwanam, c'est-à-dire un être de compassion bouddhique qui a 1000 bras. Et bien cette œuvre qui est arrivée au musée en 1889, il lui est arrivé beaucoup de malheurs, c'est-à-dire qu'au fil du temps, eh bien, on lui a mélangé les bras, elle a perdu des bras.
Oh non,
donc,
alors ça
des
c'est
caisses de
ça,
bras.
Non, des caisses de bras, c'est terrible.
Voilà. Et donc mais... on a fait un énorme travail de restauration.
Bon.
Et maintenant, elle rayonne de ses 1000 bras avec ses 1000 petites mains, et elle a aussi 1000 yeux qui sont représentés sur les mains de cette extraordinaire sculpture.
Ouais, là, je crois que vous avez achevé de donner à tout le monde envie d'aller au musée Guimet, et j'y invite tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Sophie Macariou, et très bonne
et
très bonne exposition.
C'est prolongé jusqu'au 16 octobre.
Génial, jusqu'au
voilà.
16 octobre. Merci, Sophie.
Merci à...
France Inter, le Mac de l'été, Nelly Capriélian.
Nous sommes toujours en compagnie de Simon Liberati, qui publie deux livres dès la semaine prochaine. Alors Simon Liberati, puisqu'il est beaucoup question de votre père, André Liberati, c'est
oui,
bien
André
ça,
Liberati.
Qui est poète.
Qui est poète, oui. Qui...
Alors, est-ce que c'est sa présence, évidemment, dans votre enfance, dans votre vie, qui vous a donné envie de vous mettre à l'écriture vous-même ? Je crois que vous le disiez, vous y êtes venu assez tard. Ou est-ce qu'au contraire, c'était une façon de lui échapper ?
Non, mais si vous voulez, quand vous êtes élevé par quelqu'un qui a une forme d'autorité, qui est une autorité très discrète. Mon père est quelqu'un de très doux, qui n'est pas du tout quelqu'un d'autoritaire, ce n'est pas une figure de père. Mais il avait des partis pris que je sentais extrêmement forts, notamment sur la littérature. Et comme j'aime bien les partis pris, j'aime bien les gens qui ont des partis pris. J'aimais sans doute déjà ça quand j'étais jeune. J'étais très impressionné par ça et il y avait des choses. je lui parlais certaines choses et je voyais le mépris apparaître. Donc je me disais, oula, ça doit pas être bien. Et donc du coup, j'ai gardé ça de lui et ça venait de Breton en grande partie. Enfin, c'était chez lui, mais Breton, évidemment, avait eu une influence assez forte. Breton et Benjamin Perret et les membres du groupe. Donc c'était, il y avait le surréalisme. Et donc le surréalisme, c'était pas de la rigolade. Et donc, si vous voulez, j'étais quand même, j'avais des professeurs à l'école qui me faisaient apprendre Émile Verhaeren. Ils m'avaient dit, oh là là, Verhaeren, c'est pas bien bon. Donc, qui est un poète symboliste belge, pardon. Ah, voilà. On apprenait encore Émile Verhaeren. Je dis pas que c'était mieux à l'époque, mais on apprenait encore Émile Verhaeren aux enfants. Donc, toujours est-il que bon, je me dis, oh là là, bon. Et donc, j'ai été évidemment construit à la fois par ses goûts, mais surtout aussi par ses rejets. Et donc, ça, c'est des choses qui me sont restées très fortement. Il y a des gens aujourd'hui, je peux toujours pas lire parce qu'il m'a dit, oh là, non, ça. Et parfois, souvent, j'ai continué à penser qu'il avait pas tort. Donc, voilà. Et donc, mais évidemment, pour écrire après, il y a pas plusieurs militaires dans la même famille, comme disait la phrase est célèbre, des Bonaparte. Et donc, si vous voulez, je pouvais pas me mettre à écrire de la poésie à 16 ans, évidemment. Et puis, l'époque était pas à ça. La grande époque de la poésie, c'est quand même la guerre. Hein. C'est le moment où il y a eu vraiment un vrai renouveau dans la poésie française. Et donc, moi, bah voilà, j'ai fait le parcours habituel. Je me suis intéressé à toutes sortes de choses. Pop culture, etc. Et puis ça m'a certainement tenu à distance. Et c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de devenir écrivain. Je voulais pas devenir écrivain quand j'étais jeune. Moi, c'était pas quelque chose.
Ah, mais finalement,
très jeune, oui. Puis après, non.
Ça vous a rattrapé, Simon Liberati, mais sous la forme du roman. Alors maintenant, je vous propose d'écouter une interview de William Burroughs qui parle de la drogue au micro de Frédéric Mitterrand en 1990 sur France 2.
Non, je ne crois pas. Pas plus que Fitzgerald n'aurait pu écrire ce qu'il a écrit sans l'alcool. Un dimanche dingue, Babylone revisité. Pas plus que De Quincey n'aurait pu écrire son meilleur livre, Les Confessions d'un opiumane anglais, sans l'opium. La Camorra était une part essentielle de mon expérience.
Alors, Frédéric Mitterrand demandait à William Burroughs s'il aurait pu écrire certains de ses livres sans la drogue. Simon Liberati, vous racontez, donc dans Les Rameaux Noirs, qui aussi, je le rappelle, prend en charge des souvenirs, hein, enfin votre vie, votre parcours, que vous avez pris beaucoup de drogue et beaucoup d'alcool. Alors, est-ce que ça aide l'inspiration ou au contraire, ça la détruit dans votre cas ?
Non, c'est pas que ça l'a détruit ou que ça l'aide. Si vous voulez, je me suis laissé entraîner. Je suis un drogué tardif, comme j'étais un écrivain tardif. Heureusement, d'ailleurs, pour moi, parce que c'est pour
moi,
ça, j'ai pas trop.
J'aime bien les gens tardifs.
J'ai pas trop
les
de ça. Vous êtes bien tombé.
Les précoces, c'est trop simple.
Et donc, je me suis beaucoup drogué, en effet, à un certain moment, avec de la cocaïne, principalement. C'est pas un sujet, ça m'a pas apporté une inspiration. Ça m'a fait passer quelques limites, comme tous les gens vous le diront. Enfin, je crois que c'est assez courant. Et puis, ça m'a surtout, moi j'aime beaucoup les redescentes, j'aime beaucoup les moments de manque, enfin, j'aime pas ça quand ça m'arrive, mais ça m'a donné, je me rappelle qu'à une époque, quand j'écrivais, je crois que c'est mon deuxième livre, je disais toujours, je fais les scènes tristes quand je suis ou les scènes drôles d'ailleurs, parce que quand on est très triste, on peut, donc ça m'a aidé dans une certaine mesure, mais quand ça me manquait, quoi, plutôt que quand vous êtes sous l'emprise, vous écrivez des bêtises, hein, enfin je crois à peut-être certains noms, mais moi en tout cas, c'était pas bon.
D'abord, c'est un essai, et en tant que comédienne et pour les réalisateurs, c'est intéressant parce qu'on fait des choses qu'on ne peut pas faire sur un long métrage. Parce que d'abord, on l'a fait très rapidement, on l'a fait dans une dizaine de jours. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire sur un long métrage. Parce que sur un long métrage, on est plus installé. Il y avait une urgence que Pascal avait de montrer ce film et d'entraîner ses comédiens avec elle, qui n'a pas, à mon avis, dans un long métrage.
Eva Ionesco, Simon Liberati.
J'étais tranquille depuis un petit moment.
Non,
et voilà
elle vous
revient.
Rattrape. En mai 1993, dans Synergie de Jean Lucas à Cannes sur France Inter. Simon Liberati, donc vous nous disiez que vous lui avez consacré un magnifique roman. Vous l'avez rappelé, Eva. Est-ce que la présence d'Eva Ionesco, que vous avez épousée en 2013, ne serait pas au fond aujourd'hui la plus grande des inspirations ?
Ah ben certainement, parce que d'abord je peux pas le dire, parce que depuis que je la connais, depuis que je l'ai rencontrée, j'ai jamais auto-écrit.
D'où ça explique le livre
oui.
Parent là en ce moment.
En partie pour lui échapper d'ailleurs aussi, pour échapper à notre vie quotidienne, on est enfermé chacun à un étage en train de faire des trucs. Donc moi j'ai écrit beaucoup comme ça, mais aussi parce qu'elle m'a apporté une forme de sincérité que peut-être j'étais assez... Je sais plus qui avait dit que j'étais postural. Je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que ça veut dire poseur, en fait.
Oui,
et donc,
disons,
il y avait un côté
oui,
un peu comme ça chez moi. Et Eva, c'est vrai qu'elle est très sincère, elle est très violente, et donc évidemment, elle va right to the point. Et donc, du coup, j'ai peut-être à son contact, elle m'a influencé comme une camarade de sortie peut vous influencer, une rencontre peut vous influencer, et puis m'a donné évidemment une énergie pour écrire formidable. Et puis j'ai arrêté de boire en plus, alors c'est merveilleux. Là,
alors Eva Ionesco, qui publie son premier roman. Pendant que vous passez votre vie à écrire, elle aussi. Je rappelle que vous vivez tous les deux dans une maison à la campagne, ouais. Donc ça aide pour avoir deux étages.
Ouais. Oui, il faut le préciser.
On la reçoit, Eva, vous serez content, Simon, on la reçoit la semaine prochaine, le mardi 22 août, au Mac de l'été. Alors, d'ailleurs, son livre est aussi traversé par la figure de son père. Alors, comment ça se passe? Vous avez écrit à un étage au-dessus de l'autre un livre, chacun sur... où il y a quand même la figure de votre père est présente. Vous en parliez en écrivant?
Non, c'était... Eva a commencé à écrire, elle voulait écrire sur son père depuis très longtemps. Elle a commencé à écrire, quand j'écrivais Eva, elle a commencé à écrire le livre Innocence, qui s'appelait pas encore Innocence, mais qui était déjà celui-là. Et c'est moi qui ai copié. C'est-à-dire qu'en fait, quand elle est... Ça faisait 2 ans qu'elle écrivait, elle me parlait de ce bouquin. Enfin, c'est, voilà, on a des échanges. Et puis, moi, il s'est arrivé que c'est mon père a eu ce petit problème. Comme je disais, une perte de il a perdu un peu la tête pendant quelques heures. J'ai eu besoin d'écrire ce livre, peut-être aussi pour lui et puis pour moi. Et donc voilà. Et donc après, je me suis dit, oulala, ça va être une catastrophe parce qu'avec Eva, elle va s'énerver. Donc je lui ai dit d'abord, c'est un essai sur la poésie, je vais créer un truc.
Prudent.
Et puis petit à petit, prudent, hypocrite, ce que vous voudrez. Petit à petit, évidemment, le truc est arrivé sur la table et voilà. Et on se retrouve chacun avec. Mais le livre d'Eva est un livre qui est le livre d'une vie. C'est-à-dire qu'elle a écrit, elle écrit depuis toujours. J'en parlais dans Eva, d'ailleurs. À 12 ans, elle écrivait déjà très bien, hein, donc son livre, c'est vraiment un livre. Voilà, moi, c'est un livre que j'ai, voilà, qui est plus tardif dans ma production, donc c'est différent à ce point de vue-là.
I kinda miss my student loan. I've miss sitting in the student home, sharing stories now. I sim and sipping sort of wrong, walking like I've been talking the talk, but can't afford a phone. Trust, I'm all alone, panicking to play it safe. This talk of paper chase is forcing me to stay awake. Living this layer cake where others will say it straight. Say they got my back and that they're praying I'ma pave the way. Like it's the great escape, brothers do better than me. I'm in a hurry, worried, what if they forget about me? I'm just another number, nothing when the check will bounce. See, I weren't moving for money, but there's nothing but debt around me. So when the rest have found me bugging in the brain, and I'm somewhere between the struggle and the strain, they ask why every song the same, and I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, check. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Cause this is for the men of the house who were far too young. See, your friends are going out before you can't do none. You're raising funds for your mother and you can't do sons. Up in the rubble, raising trouble, what you can't do is run. And trust, I feel it, but can't conceal it. See, this inner city responsibility's killing me. I start to shiver when I think of all the I need. And see all my brothers burning paper on that sticky greed. Picking the thickest leaves, stuck in the mist. Saying this I should've quit, but couldn't resist. And now they sit with a a little luck and a wish, but trust they still blow their mother a kiss. They're living up in the bits and slip stagger through the puddles in the pain. Somewhere beneath the rubbles in the rain, they ask why every f***ing song the f***ing same. And I tell them it's cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed, hey. I'm saying ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Brother, cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Nah, cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. I'm saying ain't nothing changed. Ain't nothing changed. Trust, cause ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Saying ain't nothing changed. Cause ain't nothing changed. Ain't nothing changed, say it ain't nothing changed. I'm not, cause us ain't nothing changed. Us, cause ain't nothing changed.
C'était le sublime Ain't Nothing Changed de Loyal Carner.
Nelly Caprielian, le Mac de l'été sur France Inter.
Toujours en compagnie de l'écrivain Simon Liberati. Alors Simon, vous publiez pas un, mais deux livres. Le deuxième, c'est Les Violettes de l'avenue Foch, chez Stock, qui est un recueil d'articles. Donc, je voulais vous demander, est-ce que la presse, c'est si important que ça pour vous? Et est-ce que c'est inspirant?
La presse m'a d'abord amené à l'écriture. J'aurais jamais écrit si j'avais mon amie Isabelle Chazot, qui était rédactrice en chef de 20 ans, journal dans lequel j'ai fait
20 ans, c'était génial. On a adoré 20 ans.
Merci. Voilà, on l'a écrit, on a travaillé des années ensemble, et c'est elle qui m'a fait écrire. Hein, faut le savoir. Enfin, faut que je le dise. Et puis sinon, bon, voilà, la presse. Moi, j'ai toujours vécu avec une grande simplicité le fait d'écrire des articles et puis aussi d'écrire des livres. C'est un exercice. J'ai des manies, donc si vous voulez, au début, quand on me commandait des articles, j'arrivais toujours à ramener le truc à des sujets qui pouvaient éventuellement m'intéresser. Il se trouve que maintenant, l'âge venant, on me demande des sujets qui ont rabat. Parfois à voir avec des choses qui m'intéressent, pas toujours d'ailleurs, mais ça me met en général à m'intéresser quand je suis dessus. Et donc du coup, je me suis beaucoup amusé à écrire des articles qui sont dans ce recueil, qui sont d'ailleurs pour certains littéraires, parce que c'est des choses pour des revues très comme les cahiers d'Henri de Régnier, ou bon, qui sont pas vraiment des trucs, mais sinon d'autres choses pour des journaux comme Vogue, comme les Un Rock, ou comme je sais pas.
Mais Simon Liberati, c'est pas tous vos articles, vous les avez sélectionnés. Comment vous les avez pourquoi vous choisissez par exemple de publier le Carla Bruni sur Jean-Pierre Léo, ou sur un autre article sur Marisa Berenson?
Plus je vous dise la vérité, alors j'ai cherché dans mon ordinateur et puis j'ai pris ce que je en voulais un certain nombre, et donc j'ai pris ce que je trouvais. J'ai fait assez confiance au hasard. Et bon, évidemment, il y en avait dont je me souvenais les plus frappants. Carla Bruni, ça m'avait demandé ça m'avait créé j'avais peur de faire cet article. J'ai pas l'habitude de faire des portraits. Et puis, ouais, j'allais timide, moi aussi. Je savais pas comment faire. Voilà, j'ai fait un truc qui était comme il était. Et donc, du coup, j'ai gardé ces trucs-là. Et puis, à ceux que j'ai oubliés. D'ailleurs, je parlais l'autre jour avec un rédacteur en chef qui me disait, mais pourquoi il n'y a pas j'ai oublié, je l'ai pas vu, quoi. Il est pas rangé. Je suis pas très ordonné sur mon ordinateur. Donc en fait, c'est un choix très hasardeux qui représente une partie de ce que j'ai écrit depuis 4 ans, mais il se trouve que ça se ressemblait, qu'il y avait des choses qui faisaient écho, qu'il y avait même des choses qui faisaient écho au Rameau Noir, et puis je me suis dit, bon, bah voilà, de toute façon, c'est amusant. Moi, en tant que lecteur, j'aime bien les bouquins où voilà, on peut passer du coq à l'âne sans trop de...
The lady is hot. Too hot to handle. The lady does not act like a prude. Just try a kiss in the dark and you'll think you've been barbecued. Because the lady's much too hot to handle.
Simon Liberati, vous l'avez reconnu?
C'est
une star.
C'est Jane Mansfield.
Ouais, bravo.
Oui, je la reconnais en général.
Bah oui, on vous offrirait bien un très beau livre sur Jane Mansfield. Le problème, c'est que vous l'avez écrit. donc, vous le connaissez déjà. C'était James Mansfield qui chantait Too Hot to Handle. Ouais. Et donc, votre roman Jane Mansfield 1967, qui a remporté le prix féminin en 2011, était absolument magnifique. En quoi les stars sont-elles inspirantes? Si c'est les stars qui vous inspirent, vous me dites si j'ai tort.
Non, mais vous, si vous voulez, il y a un truc très... Hollywood est une... Quand vous allez à Los Angeles, est chargé. C'est un endroit chargé pour moi, au même titre que Rome ou que certains lieux de culte anciens. Il y a une charge. Et cette charge vient de cette espèce de culte, de culte païen qu'il y a eu notamment autour des stars des années 10, des années 20, où à l'époque les gens considéraient réellement que ces êtres étaient au-dessus de la normale, c'était des demi-dieux. Hein. Et donc il y a cette charge mystérieuse, parfois très noire, il y a quelque chose de très sorcier là-bas. Et donc ça, et j'ai été évidemment totalement influencé, j'ai adoré le livre de Kenneth Anger que j'ai découvert quand j'avais 16 ans à Hollywood.
de Babylone. Et de là vient évidemment un goût pour à la fois même les ragots de cuisine.
Rappeler un peu ce qu'est le livre exactement de Kenneth Anger, que moi j'adore aussi personnellement. Ouais. C'est une sorte de bible de potin assez trash, diabolique, qu'il a en partie inventé sur Hollywood.
Je croyais que c'était vrai.
Non, pardon.
Moi.
Oh, bah alors.
Vous êtes en train de me révéler.
Je suis désolée, j'ai spoilé, comme on dit.
Moi, je l'ai lu comme parole d'évangile, si l'on peut dire. Mais c'est un livre. Bah, c'est le premier. C'est pas le premier d'ailleurs, mais enfin, c'est un personnage, Kenneth Anger, qui avait une espèce de veine créatrice très forte, qui a fait des films remarquables expérimentaux dans les années 50. J'apprendrai ça à personne. Et il a écrit pour vivre un espèce de bouquin. Ragot sur Hollywood, il avait une collection de photos, c'est un fétichiste, donc il avait des photos très intéressantes, et c'était inéditable aux États-Unis, donc c'est d'ailleurs des proches des surréalistes qui étaient des distributeurs du journal de pataphysique, les annales de pataphysique, qui était le journal des amateurs de Jarry, j'ai parlé avec eux, c'est eux qui l'ont présenté à Jean-Jacques Pauvert, et c'est comme ça que ce jeune amoureux de Cocteau, qui était à Paris, américain, etc., a sorti ce livre de ragot épouvantable, mais porteur de quelque chose de très 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 noir, de très fort, et qui pour moi a été véritablement, ça a été sans doute la source d'inspiration, alors personnelle, c'est-à-dire que c'est vraiment un livre que j'ai trouvé tout seul, comme ça, par hasard, et Eva, à la même époque, avait le même culte pour les mêmes photos,
oui,
hein,
Eva Ionesco,
Ionesco. Et donc voilà, je crois qu'on était plusieurs sur le coup, et c'était quelque chose de très fort, et pour moi, Hollywood, quand j'y suis allé pour faire mes enquêtes sur Sharon Tate,
j'allais en parler, avant de vous laisser continuer, Simon. Ouais. Il faut rappeler quand même qu'aussi magnifique livre, California Girls, le dernier en date, celui de l'année dernière, portait sur la famille Manson et le meurtre de Sharon Tate en 69.
C'est d'ailleurs, mon père est un homme très sensible et la crise de folie qu'il a eue était liée à Manson, en fait, parce que c'est quelqu'un qui perçoit très fortement les choses de magie, de sorcellerie, etc.
Et il Votre
a
père
lu, Oui, il a lu ce livre et il a 90 ans, il a été bouleversé par les scènes de meurtre et je pense que c'est ça qu'il a, et par Manson particulièrement, et il a fait des rêves, et c'est à suite d'un rêve qu'il a été interné, enfin qu'on l'a pas interné, j'exagère, le pauvre il va sauter sur sa chaise s'il m'entend, mais disons qu'on l'a emmené aux urgences, et puis ça s'est arrangé très vite, c'était un problème
Ah donc Simon Liberati, c'est votre livre qui crée un choc
Oui, à mon père, oui, écoutez, oui, c'est des choses comme ça, moi je pensais pas que ça serait celui-là, vous voyez, j'avais écrit des choses sur ma vie personnelle qui pouvaient être celui-là, a priori, bon, c'était des faits, voilà, mais bon, il se trouve qu'il avait une charge particulière, je sais pas qui m'a en tout cas. Alors toujours est-il que c'est très sensible quand vous êtes à Los Angeles, cette présence-là. Et donc voilà, évidemment, il y a une part religieuse, mais plutôt, comment dire, cultuelle, presque. Je parle de Dionysos dans le livre, dans les Rameaux Noirs. Je parle de tous ces cultes païens anciens. Et c'est vrai que Hollywood. Pour moi, et d'ailleurs je l'ai dit, j'avais fait là-bas une espèce de pas une conférence, mais enfin j'avais été amené pas à faire un truc. Et j'ai tout de suite dit, c'est le septième cercle ou je sais pas combien de cercle de l'enfer, quoi. On est vraiment dans le. Donc voilà. Pour moi, c'est ça Hollywood.
Dans les Rameaux Noirs, oui. Et puis votre œuvre, enfin moi que j'adore, je pense que ça se sent ce soir. Mais ouais. C'est hanté. Enfin, c'est une œuvre hantée, assez noire, assez. Il y a des fantômes, il y a de la magie. Puis l'écriture, votre écriture est magique. Alors dans les Rameaux Noirs, vous annoncez déjà votre prochain roman qui s'intitulera L'Occident. Donc on peut y aller. Occident. Bah voilà. C'est encore plus direct. On peut y aller. Simon Liberati. Il s'agira de quoi?
Alors, il s'agira de, je sais pas s'il va exister, ça va être comme vous savez, Truman Capote avait fait un livre qui s'appelait Prière exaucée, dont il parlait toujours, et puis finalement, il est sorti une souris. Et bon, je parle beaucoup de ce livre à chaque fois. J'espère que ça sera un livre, c'est-à-dire que c'est un livre qui se passe en Europe, et qui a trait à divers sujets qui sont liés par des personnages. C'est une sorte de fresque. Il va s'agir de peinture, bizarrement, et puis, évidemment, De diverses choses, dont Occident, évidemment, on pense tout de suite à Occident, les fachos. Il sera un peu question de ça quelque part, c'est pas le centre du livre, mais puis il sera question de Gibraltar. Enfin voilà, ça. Quand j'en parle, ça a l'air un peu bordélique, comme pardonnez-moi l'expression.
On adore.
Mais voilà, en tout cas, c'est en gestation, ouais. Hein, donc je peux pas en parler très clairement.
Simon Liberati, en plus d'une décennie d'écriture, qu'est-ce que vous avez écrit? Qu'est-ce que vous avez appris? Et je termine la phrase en écrivant.
J'ai appris que d'abord que c'était assez dangereux l'écriture, que ça pouvait en effet vous couper de beaucoup de choses, et ça s'arrange pas en vieillissant. Là, je deviens graphomane. Voilà, mais c'est tout. Et puis j'ai appris des choses de voilà, c'est un passe-temps extraordinaire. Vous pouvez passer, je m'ennuie jamais. Quoi. À partir du moment où je recommence à me replonger dans mes histoires, là, je c'est un jeu. Hein, c'est comme un, je vais pas dire enfant parce que c'est pas une histoire d'enfant, mais c'est des jeux. Comme une espèce de et vous travaillez même sur les livres les plus sensibles sur lesquels dans les Rameaux Noirs il y a des choses que j'avais du mal à écrire parce que c'était des choses personnelles ou sur mon père etc, mais ça reste quand même un jeu malgré tout, ça reste quand même de la littérature et donc c'est un jeu dont vous inventez vous-même les règles tout le temps et c'est absolument fascinant. Vous êtes
le Mac de l'été sur France Inter.
C'est le moment du coup de cœur de l'été. Et avec nous ce soir, Pascal Thouault, libraire chez Mille Pages à Vincennes. Bonsoir Pascal Thouault.
Bonsoir Nelly.
Vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Oui, parfaitement bien. Quel est votre coup de cœur pour l'été alors, Pascal ?
Eh bien écoutez, j'avais envie de vous proposer un livre qui paraîtra à la toute fin de l'été, la semaine prochaine, qui est le nouveau roman de Véronique Olmy chez Albin Michel, qui s'appelle Bakuta.
Oui, bien sûr. Alors, il parle de quoi ?
Alors en fait, ce roman se situe dans la deuxième moitié du 19e siècle et il dresse le portrait d'une femme qui, avant de s'appeler Bakuta, était une petite fille qui vivait dans un petit village du Darfour au Soudan. Alors enlevée à sa famille par des trafiquants d'esclaves, elle va connaître la morsure du fouet, les martyrs intenses, les ténèbres brûlantes et aveuglantes du désert, la captivité sans lot de violence et d'humiliation. Donc, vous voyez, un trajet de vie pas facile.
Non, pas facile, mais en tout cas, ça résonne avec l'actualité. Mais merci beaucoup, Pascal Thouault. À bientôt, oui. J'espère.
À bientôt, Nelly.
Donc, Véronique Olmy, c'était le choix de Pascal. Et vous, Simon Liberati, est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs pour l'été ?
Alors j'ai réfléchi à ce que je pouvais dire. J'ai pensé que je voulais des choses que j'ai pas faites, comme d'aller voir l'exposition Dior, Christian Dior, que je crois est très belle et que j'ai très envie d'aller voir. Mais il y a un endroit dont je voudrais parler qui n'a rien à voir avec un lieu culturel. Enfin a priori, c'est les serres d'Auteuil. Ce sont les serres d'Auteuil parce que j'ai cru comprendre qu'elles étaient. Vous savez, ce sont des serres qui se trouvent donc à la porte d'Auteuil, qui sont absolument magnifiques, ce sont des serres du 19e, qui sont restées dans un état. Alors on les a pas repeintes. Il y a toujours les thermomètres accrochés aux parois. C'est ravissant. Il y a une cage avec des perruches, une grande cage dans la plus grande des serres. Et je sais pas si elles sont menacées ou pas, mais en tout cas, on agrandit Roland-Garros visiblement pour le tennis. Je sais pas moi, ça m'intéresse pas le tennis. Mais ça serait un drame. Et cet endroit est merveilleux. Il faut y aller. C'est d'une beauté.
Merci Simon.
C'est conservé complètement. Voilà.
On a très envie d'y aller. En plus, c'est gratuit. Moi, j'adore les conseils gratuits.
C'est gratuit.
Merci beaucoup. Donc Simon Liberati d'avoir été avec nous ce soir. Alors je rappelle que vous publiez Les Rameaux Noirs et un recueil de portraits, Les Violettes de l'avenue Foch, le 23 août aux éditions Stock. Merci beaucoup aussi à toute l'équipe du Mac de l'été, Céline Hila à la réalisation, Alexia Lacour et Marie-Laurent Chéry à la préparation, avec l'aide d'Olivia et Arthur, et merci à Muriel Pérez pour la programmation musicale, à la technique ce soir, Florent Beauvalet et Nicolas Slimani. Lundi, dans le Mac de l'été, nous aurons la joie de recevoir la comédienne Adèle Haenel qui joue dans le très attendu 120 battements par minute de Robin Campillo. Et d'ici là, un très beau week-end à tous.